Quid pour les papyrus littéraires ? Point d'interrogation. C'est la question que pose Marcel Lambert dans une lettre adressée le 19 juin 1931 à son collègue américain Henry Van Hoosen, avec lequel il réfléchit à l'organisation d'un outil bibliographique propre à notre discipline. L'interrogation traverse de manière lancinante la correspondance du jeune secrétaire du Comité international de papyrologie, telle qu'elle est conservée dans ce que l'on appelle les archives de l'AIP, même si une partie importante des dites archives est antérieure à la fondation de l'AIP, Association internationale de papyrologues, laquelle, comme vous le savez, s'est officiellement constituée ici même, à Paris, à l'automne de 1949, il y a donc exactement 70 ans. Pendant 4 années, à partir de 1928, le débat que résume la question abrupte de Marcel Lambert, quid pour les papyrus littéraires, a occupé d'éminentes figures de la papyrologie, y compris quelques-uns de ses pionniers, dans la mesure où ils étaient survivants, des figures que peut-être M. Benaïssa évoquera dans quelques instants. Le débat culmine en 1931, lors du congrès des orientalistes tenu à Leyde, dont la section papyrologique sera considérée rétrospectivement comme le deuxième congrès international de papyrologie après celui de Bruxelles en 1930. Il trouve son aboutissement, le débat, en 1932, avec la création de la bibliographie papyrologique, au destiné de laquelle j'ai l'honneur de présider aujourd'hui, soutenu par une petite équipe soudée. Les protagonistes du débat des années 20, 1928 à 32, sont au nombre de 4. Ils sont à l'écran. Je vous les présente rapidement, par ordre d'ancienneté, pour ainsi dire. Otto Gradenwitz, né en 1860, appartient à la première génération de papyrologues allemands, celle dont Mommsen a suscité la mobilisation au service de la science naissante. Andrea Jürdens a rappelé, lors de la séance inaugurale du congrès de Lecce, il y a quelques semaines, le rôle joué par Gradenwitz dans la mise en place d'une trilogie essentielle pour le développement de la papyrologie. Je veux parler de Wörterbuch, du Sammelbuch et de la Berichtigungsliste. Ces instruments de travail ont bien sûr été organisés par Friedrich Preisicke. Mais on ne sait pas toujours que c'est Gradenwitz qui, avec clairvoyance, en avait jeté précédemment les bases. La carrière académique de Gradenwitz n'a pas été facile. Il a vécu un peu comme un exil, son affectation à l'université de Königsberg, aujourd'hui Kaliningrad. S'inspirant du Marseillais Pythéas, il avait surnommé Thulé cette retraite lointaine où il poursuivait, vaille que vaille, ses recherches de papyrologie. À la fin des années 20, Gradenwitz, désormais retiré, entreprend un tour d'Europe pour semer à nouveau la bonne parole papyrologique et susciter la mise en chantier de nouveaux instruments au service de la discipline. Il s'arrête à Bruxelles en 1928 pour rencontrer le titulaire du cours de papyrologie qui vient d'être créé à l'université. Ce n'est pas sans émotion, rappelle Lambert dans sa nécrologie de 1935, que nous nous souvenons de la visite que nous fit ce robuste vieillard, à la taille imposante, à l'intelligence sans cesse en éveil, à l'esprit extraordinairement mobile. Avec son caractère plein d'originalité, c'est toujours Lambert qui parle, ses façons à la fois amicales et autoritaires, il surprenait son interlocuteur dès le premier abord. Quand il le quittait, il le laissait harassé et ébloui. Fin de citation. L'objet dont Gradenwitz, avec l'autorité que lui reconnaît Humbert, est venu entretenir son jeune collègue belge est la création d'une bibliographie papyrologique. Gradenwitz est ainsi l'initiateur d'un quatrième instrument de notre discipline. L'idée, comme nous le savons déjà, fera son chemin dans l'esprit de Marcel Humbert, et avec cette idée se posera la question de la place à réserver dans un outil de ce genre aux fragments de littérature. Quid pour les papyrus littéraires ? Ces mots de Ritchie, né en 1881, est une figure non moins surprenante et attachante. Né au Royaume-Uni, naturalisé français, ce touche-à-tout génial a subi très tôt la fascination des papyrus. Il a 20 ans à peine, lorsque Jean Capard lui confie l'édition d'un document de la collection de Bruxelles. À peine davantage lorsqu'il prend en charge la rédaction d'un bulletin papyrologique dans la revue des études grecques. Son intérêt pour nos études se maintient jusqu'à la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle il sert comme interprète entre l'état-major français et ses alliés britanniques, puis américains. Après les hostilités, ces mots de Ritchie s'éloignent un peu de la papyrologie, sans jamais la perdre de vue. Il s'impose alors comme un critique d'art polyvalent. Je ne connais pas de photographie de lui. Si vous en possédez, je serais très heureux de pouvoir la placer dans la galerie des papyrologues. Mais je puis vous proposer une caricature parue dans Paris Midi du 12 mars 1935. Le voici, croqué en compagnie de collègues journalistes lors d'un dîner de l'Association de la presse artistique française dans un restaurant du Passage des Princes. Dans tout le secteur où le mènent ses curiosités, ces mots de Ritchie dressent des bibliographies, établissent des fiches consciencieuses et détaillées. Il prêtera pour un temps ses fiches papyrologiques à Humbert lorsque celui-ci s'attellera concrètement au projet esquissé par Gradenwitz. Henry Bartlett Van Hoosen, né en 1885, est issu de l'une des vieilles familles de souche hollandaise du nord-est des États-Unis. L'homme est venu à la papyrologie par la paléographie. Sa dissertation était consacré à la cursive romane. En collaboration avec Alan Chester Johnson, il a livré plusieurs éditions de papyrus, tous documentaires, dont le volume 1 des papyrus de Princeton, en 1931. Bien des années plus tard, en 1959, il s'illustrera encore en produisant avec Otto Neugebauer le corpus des horoscopes grecs. En 1930, Van Hoosen, qui venait d'être nommé bibliothécaire à Brown University, a participé à Bruxelles au premier congrès de papyrologie. Humbert, cheville ouvrière de la Réunion, n'a pas manqué de soumettre son avant-projet de bibliographie à l'expert en bibliothéconomie qu'était Van Hoosen. Une collaboration est sans doute déjà envisagé à ce moment entre les deux hommes. Chemin faisant, j'en ai dit beaucoup déjà sur Marcel Humbert, le maître de mes maîtres. Je voudrais préciser, puisque nous sommes à Paris, qu'après ses études de philologie classique, accomplies à l'université de Gand, encore francophone, Humbert s'est initié à la papyrologie auprès de Pierre Jouguet. Il n'est sans doute pas indifférent pour la suite de nos considérations que, à côté des papyrus de toute nature, également documentaires, Notre homme ait eu le goût de la littérature grecque, avec une prédilection particulière pour le théâtre de Ménandre. Résumons l'amorce de notre débat. Depuis 1928 et la visite de Gradenwitz, Humbert caresse l'idée de créer un instrument spécifique en matière de bibliographie papyrologique. Il s'agirait, d'une part, de constituer un répertoire depuis les origines de la discipline, un volet du projet non réalisé à ce jour. D'autre part, d'imaginer un moyen moderne et performant pour diffuser la bibliographie nouvelle. Ce seront les fiches de Bristol, distribuées à partir de 1932, puis, à travers différents avatars électroniques, la mise en ligne gratuite d'une banque de données sous le sigle BP. Le choix de cette formule s'élabore dans l'esprit de Marcel Humbert au lendemain du congrès de Bruxelles et de la rencontre de Van Hoosen, comme je l'ai déjà signalé. À partir de mars 1931, les deux hommes échangent une correspondance abondante, hebdomadaire, quelquefois quotidienne. Tout cela, toutes ces lettres, sont conservées dans les archives de l'AIP. Contact est pris par ailleurs, de la part de Humbert, avec Seymour de Ritchie. Par voie épistolaire d'abord, puis Humbert rencontre le savant dans son domicile parisien de la rue Boissière, à la veille du congrès de Leyde. Il souhaite, en effet, soumettre son avant-projet en cette occasion à la communauté papyrologique. Au centre de cette correspondance et de ces rencontres, la question brûlante, plusieurs fois formulée déjà. Il ne fait pas de doute, pense Humbert, qu'une bibliographie papyrologique doit d'abord et avant tout faire toute la place qui lui revient aux documents de l'Égypte gréco-romaine, à leur édition, à leur traduction, à leur exploitation dans des travaux de nature juridique, historique ou sociologique, entre autres domaines. Mais quid pour les papyrus littéraires ? Il paraît inconcevable de les écarter tous. Toutefois, cette mesure extrême est bien prise à l'égard des papyrus d'Herculanum, qui sont toujours absents aujourd'hui de la BP. Mais puisqu'il est également impensable de donner toutes les références relatives aux papyrus littéraires ou aux œuvres ou passages connus par des papyrus, comment opérer une sélection dans la matière bibliographique ? En dépit de son goût personnel pour la chose littéraire, Humbert, par souci d'efficacité, est partisan d'une sélection stricte. Il ne retiendrait que les éditiones principes de papyrus littéraires et passerait sous silence toute la littérature qui leur serait ensuite consacrée. Gradenwitz, dont la santé est déclinante, ne participe plus au débat. Mais les deux autres protagonistes défendent des positions moins strictes que celles de Marcel Humbert. Van Hoosen plaide pour signaler au moins les éditions définitives des papyrus littéraires ou celles qui, pour un temps, paraissent telles. De Ritchie, avec fermeté et conviction, pour une sélection beaucoup plus large, tendant même, pourquoi pas, à l'exhaustivité. Incapable de trancher, Humbert s'en remet à l'avis des papyrologues réunis à Leyde. Je cite le texte de sa communication tel qu'il a été imprimé dans les actes du Congrès. Faut-il, dans une bibliographie de ce genre, admettre ou exclure les papyrus littéraires ? L'hypothèse d'une exclusion n'est toujours pas écartée. C'est pas d'un champ papyrologique où le littéraire serait banni. Quoique je me sois efforcé de vous présenter autant que possible, sous une forme bien précise, les solutions que nous proposons d'adopter, et nous savons qu'elles sont diverses selon les conseils des collaborateurs, je dois avouer qu'ici, je reste dans le doute. Il y a quelques semaines, j'avais exprimé mon point de vue de la manière suivante. Et Humbert cite maintenant le texte d'une circulaire qu'il a adressée non seulement aux protagonistes à l'écran, mais aussi à ceux qui, depuis 1930, étaient les membres du Comité international de papyrologie. Leur nom, ou certains de leurs noms, viendront dans un instant. Citation de la circulaire. « Ce n'est pas le lieu ici de chercher une définition de la papyrologie, ni de tâcher d'en tracer les limites, pour aboutir à la conclusion que les textes littéraires sont hors de son domaine, ou au contraire, qu'ils en font partie. Notre attitude sera une attitude de juste milieu. » Je commenterai en disant « un compromis à la belge ». Un article ou un livre constituant l'editio praeceps d'un texte littéraire retrouvé sur papyrus sera admis dans notre bibliographie aussi bien que l'édition d'un texte non littéraire. Mais toutes les éditions postérieures, tous les articles relatifs à l'interprétation, à l'appréciation littéraire du texte, devront trouver leur place plutôt dans une bibliographie de la littérature grecque. Fin de citation de la circulaire. Humbert fait maintenant écho aux réponses qu'il a reçues après cet envoi. Cette manière de voir, ce compromis, a été approuvée par messieurs Bell et Wilken. De grandes figures s'ajoutent dans la galerie de nos protagonistes. Dans la correspondance des archives, on voit que Calderini a aussi été consulté et a également marqué son accord à l'égard de ce compromis. Par contre, signale Humbert, M. de Ricci y est absolument opposé. Et dans son esprit, les textes littéraires doivent former un des principaux chapitres de notre bibliographie. Il objecte que se borner à l'editio princeps, c'est se résigner bien souvent à ne citer que l'édition la plus mauvaise. Il fait remarquer que ceux qui s'intéressent à Bacchylide, Homère, Hyperide ou Ménandre sont plus nombreux que ceux qui s'intéressent à des listes de comptes ou à des registres de cadastres. Et je me suis à peu près laissé convaincre, Humbert, que nous ajouterons beaucoup à la valeur de notre ouvrage en admettant les papyrus littéraires. Mais je me demande si, en le faisant, nous n'allons pas empiéter sur un domaine qui cesse d'être celui de la papyrologie, le doute et les scrupules reviennent. Mes doutes sont ici tellement graves que c'est une des questions sur lesquelles je tiendrai le plus à entendre votre opinion. Une note, ajoutée en bas de page dans la publication des actes, précise qu'au cours de l'échange de vues qui a suivi cet exposé, on aimerait savoir qui a pris la parole, au cours de cet échange de vues, les papyrologues présents ont unanimement, c'est toujours un peu suspect, n'est-ce pas, ont unanimement exprimé l'opinion que la bibliographie projetée ne doit pas s'étendre à tous les travaux dont les papyrus littéraires ont été l'objet. Ne doit pas s'étendre à tous les travaux, etc. Voilà une habile litote qui ne tranche pas la question et laisse au rédacteur de la BP une marge d'appréciation assez souple. Dans les faits, Humbert et ses successeurs n'ont certes pas signalé toutes les études dont les papyrus littéraires ont fait l'objet, mais leur sélection a toujours été généreuse. Au-delà, et j'ose dire bien au-delà, j'assume pour ce qui me concerne, de la seule énumération des éditions premières ou définitives. Seymour de Ricci s'est retiré assez vite du projet. Je n'ai pas le temps d'évoquer le différent survenu avec Van Hoosen d'abord et Marcel Humbert ensuite. Mais en matière de sélection des références littéraires, en vérité, ce n'est pas le point de vue de Marcel Humbert, ce n'est pas le compromis de Marcel Humbert ou la variante soutenue par exemple par Van Hoosen qui l'a emporté, c'est-à-dire vrai, le point de vue de Seymour de Ricci. Pour vous en convaincre, j'ai dressé décennie par décennie un tableau mettant en évidence la place considérable faite dans la BP au domaine littéraire. La colonne 1 mentionne décennie par décennie le total des fiches distribuées sous les millésimes concernés. La colonne 2, ce qui, à en juger par l'indexation, relève du domaine littéraire. Et vous voyez que la part du littéraire est toujours considérable, tout en étant relativement stable. En 1932, ou plutôt de 1932 à 1940, 37,7% des fiches étaient consacrées aux papyrus littéraires. Les papyrus bibliques sont inclus dans cette définition, puisqu'ils sont indexés comme les papyrus littéraires, sous une cote 300. Pour la décennie en cours, évidemment le chiffre sera affiné lorsque la décennie et tous ses travaux seront connus et dépouillés, pour la décennie en cours, le chiffre est de 37,4%. En cours de route, il y a eu un pic dans les années 61 à 80, sinon le chiffre du départ est pour ainsi dire confirmé par la production des dernières années, qui est aussi grosso modo 21 215 fiches sur un total de 55 220, un chiffre moyen de 38,4%. Voilà la part dans la bibliographie papyrologique, dans la sélection plutôt à la Seymour de Ricci, la part que prennent les papyrus littéraires. C'est la plus grosse catégorie, c'est un contingent très important, 38,4%. Cette stabilité cache des évolutions différentes, secteur par secteur. Le secteur paralittéraire. J'entends par là les papyrus qui relèvent en particulier de l'astronomie, de l'astrologie, de la magie, de la médecine et du monde de l'école. Je cite les sous-catégories les mieux représentés dans le matériel, représentent au total un peu moins de 10%, 9,38 au bas de la colonne 3, je veux dire un peu moins de 10% du matériel littéraire, pas de l'ensemble des fiches. Les papyrus bibliques, c'est la colonne 4, avec 2243 fiches au total, font un peu mieux, un peu plus de 10%, 10,5% sur l'ensemble de la période. Mais cette presque égalité est trompeuse. Le chiffre des travaux relatifs aux papyrus bibliques décroche dans les années 70, puis il se stabilise, décroche vers le bas, puis il se stabilise à un niveau inférieur au secteur paralittéraire. En revanche, le chiffre des travaux relatifs aux papyrus paralittéraires augmente à partir des mêmes années 70. Il y a un chassé-croisé. Il atteint son pourcentage le plus élevé, 407 fiches sur 7797, soit 13,9% au cours de la présente décennie. Les papyrus paralittéraires sont à la mode depuis quelques années, mais c'est une mode confirmée. Nous en saurons plus cet après-midi avec la communication de M. Ricciardetto. À titre de comparaison, et les chiffres ici sont à traiter avec beaucoup plus de réserve. À titre de comparaison, j'ai dénombré ensuite les communications inscrites au programme, je ne dis pas publiées dans les actes, mais inscrites au programme de nos 10 derniers congrès, de Copenhague en 1992 à Lecce en 2019. Ce sont les 10 congrès qui se sont clairement organisés dans leur programme en session, avec à la tête de chacune de ces sessions un titre. C'est de ce titre que j'ai tenu compte. La proportion, d'abord, il faut constater, ce qui est réjouissant pour le dynamisme de notre communauté, que le chiffre total de communication a doublé entre ces deux dates. Si vous comparez le chiffre, et pardon, je dois changer d'écran, si vous comparez le chiffre de 92, 129 communications à celui de Lecce il y a quelques semaines, 264, c'est bien de 100% à 100% que s'élève l'augmentation. Peut-être le chiffre, Jean-Luc, progressa-t-il encore à Paris, en 2022. La proportion de communication littéraire, c'est-à-dire figurant dans des sessions ainsi explicitement désignées par les organisateurs, n'est pas négligeable. 229, bas de la colonne 2, par rapport à un total de 1919, soit 11,5%. Mais on observera que ce chiffre, 11,5, est nettement inférieur à celui des références littéraires de l'ABP, qui atteignait 38,4% du total général. C'est sans doute que tous ceux qui s'occupent de fragments littéraires conservés sur papyrus ne se sentent pas suffisamment papyrologues pour assister à nos congrès, en tout cas pour y prononcer des communications. Je formule là un constat et certainement pas un reproche. Remarquons pour terminer que les organisateurs des derniers congrès ont bien été réceptifs, attentifs à la montée en puissance du secteur paralittéraire. Je ne crois pas qu'avant 1998, c'est-à-dire à Florence, une session ait été jamais explicitement consacrée à cette zone grise déjà évoquée tout à l'heure. Mais depuis 1998, de manière répétée, et en tout cas c'est le cas pour les trois derniers congrès, des sessions sont explicitement désignées comme étant consacrées à la papyrologie paralittéraire. Il y a là donc concordance entre la hausse que nous avons constatée pour ce secteur dans les fiches de l'ABP et une présence de plus en plus marquée, explicite, même s'il y a toujours eu, bien entendu, des communications sur les papyrus paralittéraires, elle n'était pas jusque-là réunie en session sous ce label. Un label qui varie. Il est question quelquefois, vous voyez ça par la note de bas de page, de papyrus paralittéraire, en anglais de papyrus sublittéraire ou semi-littéraire. Et voilà sans doute un point sur lequel Gradenwitz, De Ricci, Van Hoosen et Humbert auraient sans doute pris plaisir à confronter leurs opinions. Je vous remercie.